On a quand même 63 citoyens qui sont décédés dans cet écrasement d'avion-là.
Le 20 mai 75, Diane Derry et Mario Corbeil, qui sont des voisins, sont partis en moto et on les a retrouvés le lendemain, criblés de balles. Et à ce jour, c'est encore un grand mystère. Il y a une série documentaire d'enquête qui... d'ailleurs, je pense, Julie, que tu as vu le...
Ben oui, je l'ai vu.
Voilà.
Je l'ai vu sur Point TV.
C'est ça. Bon, c'est que à la télé, ça commence dès le 11 janvier et c'est animé par Monique Néron, qui est chroniqueuse et journaliste au 98.5. Bonjour, Monique.
Bonjour à vous.
Ça va bien?
Ça va bien, merci. Vous autres aussi?
Absolument. Monique, d'abord, est-ce que tu peux nous résumer cette affaire-là dans un premier temps?
Ben, en gros, c'était en mai 75, vous l'avez dit, le 20 mai. Mario Corbeil avait reçu une moto cette journée-là, une petite Kawasaki, puis ça faisait évidemment l'envie de tout le voisinage. Donc, toute la journée en début de soirée, il a fait des tours de moto avec ses voisins. Et la petite Diane, 13 ans, c'était la dernière à la fin de la journée. Ils sont partis, c'était à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Il y avait une espèce de terrain vague à proximité, ce que les jeunes du coin appellent la « trail ». Ils partaient comme ça, là, faire des tours. Ils sont jamais revenus. Donc, il y a eu une nuit de recherche vraiment très, très intense. C'est ce qu'on présente dans le premier épisode, là, évidemment, pour mettre la table sur ce qui s'est passé ce soir-là. Et la nuit de recherche jusqu'au lendemain matin où on les a retrouvés, comme vous avez dit, criblés de balles. Et c'est ça qui est excessivement troublant. On a ici deux adolescents, 13 ans, 15 ans, qu'on retrouve atteints de plusieurs projectiles d'armes à feu. Et ça n'a jamais été résolu. Ce sont des visages qui sont un peu tombés dans l'oubli. Et autrement dit, quand je suis tombée sur leurs photos, il y a de ça à peu près 2 ans, quand on cherchait un cas sur les crimes non résolus de la Sûreté du Québec, jamais j'avais vu le visage de Mario Corbeil et Diane Derry. Pourtant, on connaît quand même bon nombre d'enfants assassinés à travers les années en territoire québécois. Il y a eu évidemment beaucoup de choses qui se sont passées dans cette enquête-là qui peuvent expliquer pourquoi on n'avait jamais entendu parler de cette affaire-là.
Puis Monique, dans le documentaire comme tel, est-ce que vous agissez aussi comme la personne qui prend, sans réaliser nécessairement, mais qui avait creusé tout le truc, etc., ou bien vous l'animez, là?
En fait, j'ai effectivement collaboré à la recherche. Qu'on voit à l'écran, là, c'est très fidèle à l'enquête qu'on a menée avec l'équipe, mais je dois souligner le travail colossal de cette équipe-là, parce que j'ai absolument pas fait ça seul. Là, ça aurait été impossible. C'est 2 ans de travail,
ben oui.
C'est de la recherche quasi à temps plein. Manuel Légaré, qui est derrière, entre autres, les émissions Deuxième Chance, Qui êtes-vous, qui avait un bagage de recherche assez incroyable, qui était productrice au contenu, a énormément travaillé. Je le disais à la blague il y a quelques temps, je l'aurais dit, là, pour vrai, les corps politiques du Québec vont vouloir l'engager, là, parce qu'elle est, elle pourrait être au renseignement d'à peu près n'importe quel corps policier. Et c'est ça, c'est une émission de recherche. C'est un show où on a réussi à trouver 100 de personnes qui gravitaient autour de ces 2 adolescents-là en 1975, des gens qui ont été impliqués, bien sûr, dans l'enquête et des gens qui n'avaient jamais parlé encore, qui apportent un certain éclairage nouveau, là, si on veut.
Bah, comment on fait, Monique, pour aller chercher des affaires que les corps policiers n'ont même pas été capables de trouver? C'est quoi la clé, le secret? C'est-tu parce que vous avez accordé plus de temps à une recherche ou vous avez procédé autrement?
Ben c'est sûr qu'à l'époque ils n'avaient pas les mêmes techniques. Hein. On s'entend là. Souvent on parle des méthodes de l'époque. On le voit là. On a beaucoup de photos de la scène de crime. On a eu accès à beaucoup de documents aussi. Puis on voit que le travail était fait avec ce qu'ils avaient entre les mains à l'époque. Nous aujourd'hui, on prétend pas être policiers. Loin de là, on n'a pas leurs moyens. Par contre, on n'a pas de contrainte légale non plus. Donc, autrement dit, on peut cogner à la porte de n'importe qui, puis on peut appeler n'importe qui à n'importe quel moment. Alors que les policiers, bon, vous savez, comme moi, ça prend des mandats. C'est beaucoup plus complexe.
Ouais.
Et oui, on a eu le temps de travailler. Et c'est vrai que quand on regarde ça, passer 2 ans sur une seule et même enquête non résolue, je suis même pas certaine qu'au case à Boucherville, là où la Sûreté du Québec est installée, ils peuvent mettre autant d'effectifs et autant de temps sur une seule et même enquête. Ils en mettent, là, mais et de là à dire qu'on va vraiment approfondir. Puis on a eu quand même accès à quelques documents d'enquête grâce au fait qu'à l'époque, il n'y avait pas que les enquêtes policières, il y avait les coronaires qui menaient leurs enquêtes aussi. Donc, eux avaient déjà rapatrié des documents, des déclarations de témoins, des rapports d'autopsie, par exemple. Donc, nous autres, ça nous a permis de nous retourner vers des experts pour faire analyser tout ça aussi.
Ça a été quoi la grosse surprise pendant que vous enquêtiez là-dessus?
Il y en a eu plusieurs, vraiment, là, puis on les voit toutes les surprises dans la série parce qu'on a vraiment tout montré, toutes les tuiles qui nous sont tombées sur la tête et toutes les hypothèses qui arrivaient qui sortait d'un peu n'importe où, si je peux me permettre, là. Mm-hmm. C'est-à-dire que on s'enlignait sur quelque chose, et puis là, à un certain moment, où on apprenait une information qui pouvait complètement changer la donne. Et puis, on n'avait pas le choix, évidemment, de fouiller ces pistes-là. C'est certain que quand on a découvert qu'il y avait dans l'entourage d'un des deux jeunes un prédateur sexuel condamné dans le temps, dans les années qui ont suivi, c'est sûr que là, ça nous a pris par surprise. Et, mais surtout, je vous dirais, quand on apprend qu'un policier impliqué dans l'enquête à l'époque pourrait avoir eu des liaisons avec le crime organisé. Ça, là, ça nous a vraiment jeté par terre. Ça fait partie du récit, ça fait partie des épisodes. Je veux pas aller nécessairement trop en détail, mais ça, c'est certain que ça choque et on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que ça a pu faire en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec deux familles qui ont jamais vu l'assassin les menottes au poing?
Monique, est-ce qu'il y a une prise de risque? Parce que tu dis ça a pris 2 ans d'enquête. Quand on commence un projet comme celui-là, j'imagine que dès le départ, vous aviez déjà une idée que ça allait pouvoir vous conduire en quelque part. Parce que sinon, au fil des recherches, si vous n'aviez pas abouti, ou est-ce qu'il y a toujours une pression que vous avez de trouver?
En fait, c'est vraiment intéressant à ce point-là parce que on avait, oui, une pression que nous, on s'était mis nous-mêmes, là, mais on ne savait pas comment ça allait se terminer. Puis on savait pas si on allait aboutir avec une série quand on a commencé parce qu'on n'avait pas aucune idée de ce qu'on allait découvrir, de qui on allait réussir à trouver et de qui allait accepter de nous parler aussi. Donc, autrement dit, même quand on a commencé les tournages, après peut-être, mettons, une année là, de démarchage et de recherche et tout ça, de contacts préliminaires, quand on commence à tourner, on savait des choses, mais pas tant que ça. Donc, autrement dit, ça s'est bâti au fil des tournages et disons-le, là, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir prendre autant de temps et qu'un diffuseur nous permette de fouiller une histoire en sachant même pas si au final on va pouvoir diffuser. Et c'est exactement ce que Radio-Canada a fait. Donc, et on a été, je dis chanceux, mais en même temps, bon, il y a énormément de travail, là. C'est beaucoup une émission de recherche, là. Je pense que les gens qui l'ont déjà vu le voient, là, que c'est un travail colossal de recherche. Mais ça aboutit finalement à 6 épisodes, puis on est vraiment très contents de ça, là.
Moi, Monique, je partage la même passion que toi, je pense, pour ce type d'enquête judiciaire-là. Puis j'ai vraiment dévoré celle que tu nous as proposée. Puis je me pose
toujours
la question.
C'est vrai? Ah, ben, oui. Je suis contente d'entendre ça.
Je me pose toujours la question quand on en voit sur Netflix. Tu sais, de plus en plus, là, c'est un courant qui est suivi autant du côté des podcasts. Puis on se demande tout le temps, mais comment vous êtes tombé sur cette histoire-là? Comment ça se fait que c'est celle-là que tu as choisie parmi toutes les cold cases? Puis surtout, quand on s'aperçoit toujours des rebondissements, c'est sûr que c'est souvent fait ou scénarisé aussi en fonction de nous garder à l'antenne ou à l'écoute d'émission en émission. Mais celle-ci, comment tu l'as trouvée?
C'est vraiment quand la Sûreté du Québec a bonifié son escouade de crimes non résolus, là, de cold case, il y a quelques années. On cherchait une histoire. Et comme tu dis, on cherchait l'histoire qui allait nous permettre de faire ça en plusieurs épisodes comme ça. Puis encore fallait-il la trouver et trouver le potentiel, même si c'était du gros... c'est du gambling, là, disons-le, oui. Parce que, comme je dis, quand on a commencé, on savait pas comment ça allait finir. Mais quand j'ai vu ce cas-là, c'était juste leurs photos, je les avais jamais vues avant, Diane et Mario. Puis j'ai vu la petite description, balade à moto, retrouver criblé dedans le lendemain matin. Puis je me suis dit, voyons donc comment ça se fait que ça a traversé le temps, ça, puis qu'on les a jamais vus, ces enfants-là. Comment ça se fait qu'on en a jamais entendu parler. Donc, c'est vraiment parti de là et on a pu trouver les documents d'enquête là, dont je parlais, les quelques 97 pages de documents de coroner. Et c'était vraiment la base. Déjà, d'avoir ça, c'était bon, parce que là, ça nous permettait de rebondir sur beaucoup de choses après. Et on a compris qu'on avait déjà plus de matière que sur bon nombre de dossiers non résolus dont on a beaucoup entendu parler, par exemple. Donc, c'est vraiment ça le point de départ, en fait.
Et moi, Monique, si c'est pour encourager les gens à l'écouter, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui trippent là, sur ce qu'il y a sur Netflix là, comme proposition, puis c'est encore plus intéressant parce que là, celle que tu proposes, c'est québécois, là, puis ça vient de chez nous. La fin de la série, puis je ne veux pas dévoiler de punch, moi, me laisser entrevoir qu'il allait peut-être avoir une suite.
Peut-être. En fait, on n'exclut pas la possibilité de faire un complément à la série si, disons, il y avait du développement du côté policier. Parce qu'à partir de là, et si tu as vu la série au complet, tu comprends qu'on est allé quand même au bout de ce que nous, on pouvait faire. Rendu là, les policiers, est-ce qu'ils vont utiliser ça? Est-ce qu'ils vont prendre la balle au bon? Est-ce qu'ils ont mis des techniques d'enquête en parallèle de notre travail? Ça, on ne le sait pas. Puis rendu là, nous, ça ne nous appartient plus. Mais c'est sûr et certain que si jamais il y avait une conclusion, un dénouement policier, judiciaire à tout ça, on va suivre ça de très, très près. C'est évident. Dans les circonstances, je suis pas très confiante que ça puisse arriver, on dirait, avec tout ce temps-là. Mais je sais qu'il y a des effectifs qui ont été mis du côté de la Sûreté du Québec. Et la raison pour laquelle je suis pas certaine qu'ils vont passer les menottes à quelqu'un, là, c'est pour toutes sortes de raisons légales. On est en 75, ça fait très, très longtemps. Bon, la personne semble toujours être vivante, mais pas nécessairement accessible. En tout cas, je sais que c'est beaucoup de mystères, peut-être, pour les gens qui nous écoutent. Mais il existe encore quelqu'un qui pourrait être relié à ce double meurtre-là et qui est toujours vivant et qui n'a jamais été accusé.
Est-ce que, Monique, pendant qu'on fait une enquête comme ça, qui se destine à être médiatisée, là, on n'est pas avec le CRS, là, ça se passe vraiment, le but, c'est que ça passe à télé, à grande écoute, y a-t-il des moments où, tout à coup, vous vous dites, ce bout-là, c'est fascinant, ça aide l'enquête, mais je ne peux pas passer ça à télé?
Tellement. Il y a tellement de moments qu'on a dû, je dirais pas sacrifier, mais qu'on a dû laisser de côté pour des raisons évidentes, c'est-à-dire des raisons légales. Parce que, bon, évidemment, il y a personne qui a été arrêté dans cette affaire-là. Il y a personne qui a été accusé. Et c'est excessivement litigieux de s'avancer trop loin. Par contre, je pense qu'on a réussi à broder autour de ça et de présenter l'histoire sans trop que ça frustre le téléspectateur de pas avoir, par exemple, de visage ou de nom de suspect. Mais par contre, on va quand même assez loin, tout en respectant évidemment la présomption d'innocence, parce qu'on est dans un système de droit où on peut pas accuser n'importe qui sur la place publique sans preuve, sauf dans des contextes bien, bien particuliers, mais il a fallu travailler avec ça. Fait que c'est sûr que pour l'anecdote, là, je vous confie ça bien, bien spontanément, mais j'étais, moi, enceinte quand j'ai tourné cette série-là, et à la toute fin, on était en post-production, et c'est mon conjoint qui réalisait. Puis quand il revenait à la maison, moi, j'étais à quelques jours d'accoucher, puis à chaque jour, on perdait des acquis. On perdait des bouts de l'émission parce qu'on pouvait pas les diffuser. Puis c'est sûr que ça a été extrêmement frustrant, mais le résultat final n'en souffre pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je suis vraiment contente parce que les gens vont avoir l'impression d'avoir vraiment un portrait très, 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 très complet, je pense, de ce qu'on a fait, puis de façon chronologique.
Maintenant, pour ma gouverne personnelle, qu'est-ce qui fait que tout à coup, on a une fascination pour essayer de déterrer des vieilles affaires, des trucs de même? Quel profil ça prend? Tu sais, je veux bien croire journaliste, là, j'ai bien compris. Mais au-delà de ça, Monique Néron, vous aimez ça, essayer de comme mettre l'éclairage sur... Mais ça vient d'où, ça? Comment on tombe à être quelqu'un qui se fascine pour les histoires qu'on pourrait dire? Bah, qu'est-ce que tu veux, on ne l'a pas trouvé. Mais là, non, Monique Néron, elle a dit, moi, je vais continuer ça.
C'est une excellente question. J'avoue qu'on ne me l'a pas posée encore, celle-là. Ça me...
C'est normal, c'est parce que quand moi, je fais des entrevues, c'est pas pareil.
Oui, je vois ça. Il faudrait que je fasse une introspection, mais c'est vrai que j'ai personnellement une curiosité. Ce type de série-là m'interpelle. De savoir que pendant 10, 20, 30, 40 ans, il y a des familles qui se lèvent le matin et qu'on a laissé un peu de côté, qu'on n'a pas aidé à avoir un dénouement, ça m'a toujours travaillé. Je me souviens, il y a quelques années, je m'intéressais beaucoup aussi aux disparitions non résolues parce que je me disais comment on peut laisser des parents se lever chaque matin en sachant pas où est leur enfant. Ça me rentrait pas dans la tête. Fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose de très, très imprégné, très senti, qui vient me chercher dans ces affaires-là. Comment est-ce qu'on peut passer sa vie? Puis on le voit avec les parents, la maman de Diane Derry dans la série, qui est une dame tellement attachante et qui a vécu une vie là avec des hauts et des bas sur le plan émotif, la santé et tout ça. Et aujourd'hui, quand elle nous dit, ben écoutez, merci, parce que pour moi, c'est une forme de réponse, puis je suis en paix avec ça. C'est je vous en parle, puis j'ai encore des frissons parce que c'est ça l'essentiel. Puis c'est peut-être pour ça que je fais ça. Parce que ça, là, on peut pas faire ça autrement qu'en mettant l'énergie et la rigueur qu'il faut dans un projet comme celui-là et le temps. Comme je vous dis, ça a été un luxe, le temps qu'on a eu, qu'on nous a donné pour faire cette enquête-là. Et le résultat est vraiment à l'écran, là.
Il y a peut-être une leçon aussi là-dedans pour un peu tout le monde, bien incluant les gens dans les médias, c'est que à l'époque où du temps, on dit « Ah non, on n'a pas de budget », peut-être que quand il y a du temps, il arrive des affaires que quand on n'a pas de budget, il arrive pas, tu sais.
Peut-être, oui, c'est bien, c'est une belle réflexion, en effet. C'est ça a des résultats, puis ça change des vies, ou en tout cas, ça apporte, ça fait une différence pour des concitoyens. Oui.
Ça commence le 11 janvier, Monique Néron. C'est à quelle heure exactement?
C'est à 20h sur les ondes de ici Radio-Canada TV.
Bon, ben on souhaite d'autres enquêtes du genre. Là. Ça a l'air que c'est payant pour tout le monde, incluant les téléspectateurs. Ça fait que salut bien, Monique Néron, chroniqueuse et journaliste au 98.5, particulièrement dans les enquêtes salées comme ça. Salut, Monique.
Merci à vous. Bonne fin de journée.